Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous. Abdelaziz Bouteflika va démissionner d'ici 4 semaines, communiqué officiel de la présidence algérienne. Nous serons à Alger dans une minute avec notre envoyé spécial. L'enquête est toujours en cours à la maison de retraite La Chêneraie aux Lermes près de Toulouse. 5 personnes âgées y sont mortes, peut-être à cause d'une intoxication alimentaire. Nous serons sur place et nous nous intéresserons au propriétaire de cette EHPAD, le numéro 1 européen du secteur. Des paiements suspects chez Renault, le constructeur a signalé à la justice des paiements effectués sous le mandat de Carlos Ghosn qui pourraient ne pas être légaux. Premier ministre, premier conseil des ministres pour les 3 nouveaux secrétaires d'État. Ce matin, reportage à Dakar, la ville natale de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. À Bruxelles, après la nomination d'une simple secrétaire d'État aux affaires européennes, la France est toujours jugée comme un mauvais élève. Et puis à 3 jours du premier débat entre les têtes de liste sur France Inter et France 2, quels sont les préoccupation des Européens. L'émigration n'est pas le sujet numéro 1. Au téléphone sonne ce soir Fabienne. Eh bien, à quoi servent nos députés ?
Absolument, à quoi tu sers député ? Trop nombreux, jamais à Paris, trop à Paris, jamais là pour voter. À quoi servent les commissions ? Pourquoi c'est si long de passer une loi ? On profite du rapport du projet Arcadie qui scrute la vie parlementaire pour tordre le cou peut-être à quelques idées reçues, répondre en tout cas à toutes vos questions et ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
Vive les forêts ! On s'en doutait, le CNRS nous le confie. Les forêts sont nos alliés contre le réchauffement climatique, notamment les forêts tropicales.
France Inter.
Les manifestations duraient depuis plus d'un mois, très fournies et toujours pacifiques. Les Algériens sont sur le point d'obtenir gain de cause sur un point au moins, puisqu'Abdelaziz Bouteflika va démissionner. Communiqué officiel il y a une heure environ, le chef de l'État partira le 28 avril au plus tard. Pour la première fois, la présidence utilise ce mot, démission. Mathilde Dehimi, vous êtes en direct d'Alger par liaison satellite. Mathilde, ce départ semblait inéluctable, mais les réactions sont encore mesurées.
Oui Frédéric, pour l'instant les seuls klaxons derrière nous sont ceux plutôt des embouteillages d'Alger. C'est un symbole très fort, mais ce n'est pas une surprise. La rumeur était persistante depuis la nomination hier d'un nouveau gouvernement qui était en quelque sorte le premier étage de la fusée, puisqu'il y a besoin de gérer les affaires courantes pendant la transition. La deuxième étape, elle a eu lieu ce matin avec une réunion du Conseil constitutionnel. La troisième s'est donc faite, c'est l'annonce de la démission dont on ignore la date effective avant le 28 avril, dit le communiqué. Soit, mais c'est la date exacte de fin de mandat, du quatrième mandat du président algérien, qui annonce ce communiqué également des mesures importantes, là aussi sans aucune précision. Pour l'instant, les gens ne sont pas descendus manifester. C'est même un non-événement, dit Mohamed.
Pour nous, ça ne va rien changer. On pense déjà que lui, il n'est pas dans son état pour faire ses fonctions de président d'État. Et maintenant, sa démission, si elle vient ou elle ne vient pas, pour nous, lui, vraiment qu'il ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que tout le gouvernement, qu'il démissionne et qu'il part, pas qu'au bout de Flera.
Alors du côté constitutionnel, va commencer la période de transition, ça va, qui va s'ouvrir, validée d'abord par le Conseil constitutionnel, puis le Parlement qui confiera ensuite le pouvoir au président de l'équivalent du Sénat. C'est un proche de Bouteflika de 77 ans. Les prochaines élections, elles auront lieu dans un maximum de 3 mois. C'est trop court, disent déjà, pour s'organiser les opposants.
Mathilde Dehimi, merci, en direct d'Alger avec Gilles Gallinaro.
L'enquête se poursuit après la mort de 5 personnes âgées en Haute-Garonne.
Maison de retraite La Chêneraie aux Lermes, à 30 km au sud-ouest de Toulouse. Hier soir, après le dîner, plusieurs pensionnaires sont pris de malaise. 4 meurent dans la soirée et une 5e personne meurt dans la matinée. 13 sont toujours à l'hôpital. Au total, 24 personnes auraient été intoxiquées. C'est peut-être une intoxication alimentaire qui a sévi. Le procureur a ouvert une enquête en lien avec l'Agence régionale de santé. Stéphane Iglesis, vous êtes sur place. Stéphane, la direction de l'établissement donne une conférence de presse.
Oui, le groupe Corian dit ce soir avoir évidemment pris en compte l'ampleur du drame et la douleur des familles. Dans un communiqué cet après-midi, le groupe Corian indique que le dernier contrôle d'hygiène réalisé en février était conforme et que la cuisine est bien réalisée sur place. Charles-Antoine Pinel est directeur général France senior du groupe Corian. Il a fait ce soir le service minimum, une simple déclaration.
Depuis hier soir, sachez que nous sommes tous mobilisés. Les équipes de proximité, notamment celles des établissements voisins, se sont rendues immédiatement sur place dans la nuit, afin de soutenir leurs collègues et d'informer et rassurer les résidents et leurs proches. Je suis là aussi pour comprendre ce qui s'est passé. Et nous apportons notre plein concours aux autorités publiques dans les investigations qui ont démarré ce matin. Comme vous le savez, il y a une enquête en cours sous l'autorité du procureur de la République et je ne peux pas faire d'autres commentaires.
Quant à Michèle, c'est une habitante de l'Herme, elle fait partie des mécontents. Elle a retiré sa mère, restée 5 ans, dans cette maison de retraite. Michèle.
On l'a enlevée parce qu'il ne la lavait pas. Il la lavait qu'une fois par semaine. Et il fallait que ce soit moi qui vienne ou ma belle-sœur laver ma belle-mère. Après, la question de manger, c'était pas des ortolans tous les jours, mais c'était pas mal non plus. 2 750 par mois. On la lavait pas tous les jours parce qu'il manquait des personnes. Non, ça m'étonne pas. Non, je vous le dis franchement que ça m'étonne pas, parce que on a vu ce qui s'est passé pour ma belle-mère et ça m'étonne. De toute façon, c'est une maison de retraite qui, beaucoup de gens disent dans le village que il faudrait la fermer parce que il y en a beaucoup qui enlèvent les parents, hein. Attention, hein. Parce que le directeur, il est tout le temps dans son bureau, enfermé, il regarde pas s'il manque de ci, s'il manque là, s'il fait là. Et il est bon qu'à les téléphoner.
Ce soir, le procureur de la République précise que 24 pensionnaires ont été victimes de cette intoxication. Il confirme les 5 décès. L'Agence régionale de santé indique que 12 personnes restent désormais hospitalisées, que 3 ont pu rentrer à la maison de retraite.
Merci beaucoup Stéphane Iglesis en direct du Lherme. L'exploitant de cet établissement s'appelle donc Corian. C'est tout récent puisque Corian a racheté il y a quelques semaines le groupe Omega, propriétaire des lieux. La direction, on l'a entendu, vient de donner sa conférence de presse. On attend les résultats définitifs d'une enquête interne. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Corian, c'est le numéro 1 européen des maisons de retraite.
Oui, 803 établissements dans 5 pays, c'est effectivement ce que l'on appelle un poids lourd. Corian, ce sont rien qu'en France 30 000 lits, plus de 20 000 collaborateurs. Alors le groupe possède des maisons de retraite médicalisées comme celle du Lherme, des cliniques, des résidences-services pour les personnes âgées les plus en forme et propose aussi des soins à domicile. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de près de 3,5 milliards d'euros et en pleine expansion. Ses dirigeants prévoient d'ouvrir 3 500 nouveaux lits d'ici la fin de l'année. Côté en bourse, le titre a perdu depuis ce matin 5% à Paris.
Ouais, et Corian qui a essuyé plusieurs polémiques ces derniers mois.
Avec des reportages radio, télé, qui épingle les conditions d'accueil et de soins, notamment un magazine Pièce à conviction et un envoyé spécial diffusé en septembre dernier sur France 2. On y voit des proches de pensionnaires dénoncer le manque de personnel, la course au profit. Une partie des soignants s'est aussi mise en grève au printemps dernier. Ils pointaient les cadences infernales et réclamaient plus de moyens pour mieux accompagner les résidents.
Renault a transmis un nouveau signalement au procureur à propos de Carlos Ghosn.
Après le mariage somptueux de l'ex-PDG à Versailles, le constructeur s'interroge sur des dépenses de marketing à Oman, dépenses prises en charge par la présidence de Renault en France. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Les experts qui ont épluché les comptes ont pointé des paiements suspects à hauteur de plusieurs millions d'euros. Renault a donc saisi le parquet de Nanterre vendredi dernier.
Oui, joint il y a quelques minutes par nos soins, l'avocat de Carlos Ghosn, maître Jean-Yves Le Borgne, est pour le moins surpris.
C'est vous qui m'apprenez ce signalement concernant des paiements dont j'ignore le montant, la nature.
La nature des faits, pour ce qu'il en est, hein. On parle de paiements suspects, vous l'avez dit. Plusieurs millions d'euros, peut-être 10, qui auraient été versés à un distributeur de l'Alliance Renault-Nissan au Moyen-Orient. Un distributeur dont le nom est apparu déjà dans l'enquête au Japon. 32 millions d'euros auraient transité sur ses comptes et permis à Carlos Ghosn, via un montage, d'acquérir un yacht pour lui et sa famille. C'est ce que laissent entendre les médias nippons. Réponse de l'avocat de l'ancien patron, attention.
Je crois surtout qu'il faut faire attention à ces emballements qui voient le mal partout et se rappeler que dans ces grandes entreprises, il y a des distributeurs auxquels des primes sont dues et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on les leur paye et qu'il me paraît tout à fait prématuré, pour ne pas dire déraisonnable, de voir dans cette information au demeurant très floue une quelconque faute imputable à Carlos Ghosn.
Maître Le Borgne aussi de s'étonner, Carlos Ghosn ne pouvait être le seul au courant si de telles sommes ont été engagées. D'autres ont dû vérifier ses paiements. Son client, certes tout puissant, n'était pas seul à décider.
Le parquet antiterroriste basé à Paris ouvre une enquête après que 2 engins explosifs ont été découverts aujourd'hui à Bastia devant une trésorerie et devant la direction départementale des finances publiques. Emmanuel Macron est attendu jeudi en Corse pour un grand débat.
Il est 19h presque 10, Frédéric. Un un conseil des ministres avec trois petits nouveaux aujourd'hui.
Sibeth Ndiaye, 39 ans, porte-parole. Cédric O, 36 ans, secrétaire d'État au numérique. Et Amélie de Montchalin, 33 ans, secrétaire d'État aux affaires européennes, ont été nommés hier soir. C'est le deuxième gouvernement le plus jeune de la Ve République, âge moyen des ministres un peu plus de 48 ans. Après ce conseil, la toute nouvelle porte-parole, Sibeth Ndiaye, a participé à son premier point presse. Je ne prétends pas tout savoir, peut-être avons-nous donné le sentiment de ne pas être dans l'écoute au début de quinquennat, a-t-elle reconnu. Sibeth Ndiaye est née à Dakar, cette ancienne du PS passée par Bercy avec Emmanuel Macron a été naturalisée française en 2016 seulement. Elle explique que la France est son pays choisi et ce matin elle a parlé avec émotion de son enfance sénégalaise et de sa famille. À Dakar, William Delesseux a marché dans les pas de la nouvelle ministre.
L'institution Jeanne d'Arc est en plein centre de la ville. En uniforme, cette jeune élève de 5e sort de cours. Pour elle, Sibeth Ndiaye, c'est une source d'inspiration.
Ses études ici l'ont permis à devenir porte-parole. On peut dire qu'elle a travaillé ici, elle a réussi dans la vie. Cette école est...
Cette école aide, c'est l'avis de Michel Walidiouf. Il enseigne l'histoire-géographie.
Les meilleurs élèves, on les retrouve ici. C'est une école biculturelle. Il y a la culture française, la culture sénégalaise. Donc c'est une richesse en fait.
Une richesse qui a servi à Sibeth Ndiaye, d'après lui.
En fait, son parcours peut inciter les jeunes qui sont là. Ça peut booster en fait les élèves de mon point de vue.
Ryan Attal est la proviseure de l'établissement et une amie de la famille Ndiaye.
Les parents étaient des amis de mes propres parents. Donc, je me souviens être allée chez eux parce que c'était une grande famille sénégalaise avec les deux parents qui étaient très engagés aussi bien politiquement que professionnellement. Donc c'était voilà, une maison où il se passait, enfin intellectuellement, voilà, il se passait beaucoup de choses et on comprend que les enfants soient aussi engagés eux-mêmes. Puis je pense que si elle devait revenir ici, ce serait tout à fait intéressant de la recevoir.
Lui lancer l'invitation là ?
Ah oui, tout à fait, ce sera avec grand plaisir.
Sibeth Ndiaye était dans l'institution Jeanne d'Arc jusqu'en 3e avant d'étudier au lycée Montaigne à Paris. Dakar, William Delesseux, France Inter.
Autre nouvelle venue, donc la députée de l'Essonne, Amélie de Montchalin, aux affaires européennes. En 15 ans, elle est la 13e personnalité chargée de ce dossier. Tout cela à moins de 2 mois des élections européennes du 26 mai. Et surtout, avant le premier grand débat jeudi soir sur France Inter et France 2, avec le téléphone sonne spécial de 19h à 21h, puis le débat sur notre antenne qui mettra face à face la plupart des têtes de liste en plateau. Mais à quoi pense seront les électeurs avant de voter? Qu'attendent-ils de cette élection? L'institut de sondage britannique YouGov a interrogé 45 000 personnes dans 14 pays. Les résultats sont à retrouver sur franceinter.fr. Et l'on note, Yael Gauss, que l'immigration reste un sujet sensible, mais pas dominant.
Elle en a fait le thème central de son dernier déplacement à Mayotte la semaine dernière. Marine Le Pen agite une nouvelle fois le risque de submersion migratoire. Sauf que les priorités exprimées côté français dans cette enquête disent tout autre chose. Inquiétude majeure sur le pouvoir d'achat et le chômage. Et quand on sort de l'hexagone, cette question sociale domine également. L'emploi, priorité numéro 1 des Espagnols et des Italiens. En Pologne, c'est la santé et les retraites. Dans certains États membres, c'est même la fuite des cerveaux, la crainte de l'exode, la peur de l'émigration donc, qui l'emporte sur l'immigration. C'est le cas notamment en République tchèque, Pologne et Roumanie. Et puis il y a le changement climatique, perçu dans 13 États membres comme la menace qui devrait éclipser les autres. Une étude que les états-majors en campagne liront avec intérêt car elle révèle toute l'ambiguïté du moment politique que nous traversons. L'immigration, redoutée par les Français à l'échelle de l'Europe, mais considérée comme secondaire à l'échelle du pays, c'est déjà ce qui ressortait du dernier Eurobaromètre publié mi-février pour le compte du Parlement européen.
En Turquie, l'insulte faite au sultan aux élections municipales. Le parti de Recep Tayyip Erdogan a perdu Ankara et pourrait bien perdre Istanbul. L'AKP, son parti, envisage déjà de déposer des recours. Un chef d'État en exercice au mur des lamentations, hormis les papes, ce n'était jamais arrivé jusqu'à cet après-midi. Le Brésilien Jair Bolsonaro s'est rendu sur les lieux avec Benjamin Netanyahu. Le nouveau chef d'État brésilien veut mener une diplomatie proche de celle de Donald Trump, très proche de la droite dure israélienne.
Et puis retour en France, Frédéric, avec cette possible réforme des heures de nuit.
Le Sénat étudie en première lecture la loi Pacte et par le biais d'un amendement, il pourrait mettre fin aux heures de nuit après 21h dans les magasins d'alimentation ouvert tard le soir. 42 000 salariés seraient concernés, mais après le Sénat, la loi Pacte doit repasser une dernière fois à l'Assemblée dans le courant du mois d'avril. Y aura-t-il grève dans l'éducation nationale le 17 juin, jour des épreuves? l'épreuve du bac philo et du bac français. Le SNES, principal syndicat du secondaire, espère ne pas en arriver là, mais il consulte ses adhérents. Le SNES dénonce le manque de dialogue et la rigidité du ministre Blanquer à propos de la réforme du lycée qui entre en vigueur à la rentrée prochaine. En région Rhône-Alpes, les lycéens devront signer une charte des droits et des devoirs. Le président de la région, Laurent Wauquiez, l'annonce ce midi à Lyon. Et si cette charte n'est pas respectée, les lycéens verront leur pass région suspendue. C'est un pass de 600 euros pour acheter des livres, pour aller au cinéma ou au musée. À Lyon, Christophe Vincent.
Laurent Wauquiez n'a rien inventé. Sous ses prédécesseurs, Charles Millon, puis Jean-Jacques Kerran, la région finançait déjà l'achat des livres scolaires et soutenait la pratique sportive ou culturelle. Aujourd'hui, le président LR augmente son aide jusqu'à 600 euros, mais en échange, il demande à chaque lycéen de bien se comporter.
On lui offre ses manuels scolaires en début d'année. Toutes les régions ne le font pas. Ce qu'on attend, c'est qu'à la fin de l'année, les manuels soient toujours en état pour que la famille qui viendra dernière puisse étudier dans de bonnes conditions. Un autre exemple, on travaille beaucoup sur les cantines. Un personnel de cantine qui sert les élèves, c'est peut-être quelqu'un de catégorie C, mais il a le droit aussi au respect. Et on attend de nos lycéens qu'ils se comportent bien par rapport à ces personnels qui sont souvent très dévoués. Donc l'objectif, c'est de dire aux élèves, on fait beaucoup pour vous, on a doublé le budget d'accompagnement pour les lycéens. La contrepartie, c'est vous de votre côté, il faut respecter. On a des droits, on a aussi des devoirs.
C'est comme ces portiques de sécurité, soupire un responsable FSU qui précise « Pour Laurent Wauquiez, les lycéens sont de potentiels délinquants, donc il montre ses muscles à des fins démagogiques et électoralistes. » Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Précieuse, très précieuse forêt.
Ces forêts où l'on supporte mieux les fortes chaleurs et les variations de température et qui permettent un peu de limiter le réchauffement climatique. Eh bien, pour la première fois, cet effet tampon des forêts a été évalué au niveau mondial par le CNRS dans les zones boréales, tempérées et tropicales. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Frédéric.
Les forêts tropicales sont les plus nécessaires, semble-t-il.
Oui, en moyenne, les températures sont plus basses en forêt qu'à l'extérieur, de 4 degrés, et cet écart est encore plus fort pour les forêts tropicales. Et ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont situées dans des pays chauds, c'est surtout parce que les arbres des forêts tropicales sont plus hauts, plus denses et donc plus protecteurs que les sapins des forêts du Nord. Jonathan Lenoir est chargé de recherche au CNRS.
C'est comme si on imaginait la forêt comme une couverture isolante, et c'est comme quand vous mettez une épaisseur d'isolant pour votre maison, en fait, plus la couche d'isolant est importante et plus l'effet va être intéressant en termes d'isolation thermique. Et
il est donc possible, selon le CNRS, de limiter les effets du réchauffement à condition de protéger ces forêts tropicales qui permettent également d'assurer la survie des espèces.
Il y a toute une faune et plein d'organismes, en fait, qui dépendent de cet habitat. C'est comme un filtre, en fait. Donc, si on enlève ce filtre, eh ben, en fait, on fait disparaître tout un tas d'habitats qui sont propres à certains organismes et qui ne pourront pas survivre si on l'enlève. Les organismes vivants sont beaucoup plus sujets en fait aux fluctuations externes et ça sous-entend la disparition de certains organismes qui perdent leur habitat.
Et surtout, ces forêts où les températures sont stables permettent aux êtres vivants de supporter de fortes chaleurs à l'extérieur. Mais le bilan global des forêts contre le réchauffement est encore assez méconnu. Si en montagne, le réchauffement climatique est deux fois plus prononcé qu'en plaine, on ne sait pas ce qu'il en est dans les forêts. Les chercheurs ont besoin de davantage de capteurs météo sous les arbres. Voilà de nouvelles pistes de recherche pour comprendre encore mieux nos forêts.
Célia Kiré, allez, un petit tour des poissons d'avril de par le monde. Le ministère danois des Affaires étrangères veut faire comme Donald Trump, le Danemark va construire un mur avec le Royaume-Uni au milieu de la mer du Nord, et cela pour empêcher les harengs danois de migrer dans les zones de pêche anglaises. À Vienne, la régie du métro annonce qu'elle va créer une file piéton spéciale pour ceux qui baissent le nez en regardant leur téléphone portable. Le quotidien belge La Dernière Heure évoque une Wallonie restée à l'heure d'été et une Flandre restée sur l'heure d'hiver.
En même temps, ça ne m'étonnerait pas des deux. Hein.
Non, ils en sont bien capables. Et puis un poisson d'avril pédagogique en Roumanie, Fabienne. Le ministère de la Défense a décidé de rétablir le service militaire, a laissé passer quelques heures et a écrit sur Facebook « Soyez vigilants, les fake news ne surgissent pas que le 1er avril. Ne laissez pas les autres vous influencer. Vérifiez vos informations. »
Eh ben formidable. Vous savez quel est le plus beau mot de ceux que j'ai croisé, c'est The Telegraph à Londres qui dit qu'on a interdit les poissons d'avril parce que le Brexit a rendu les gens trop nerveux. C'est pas quoi de
ils en sont capables aussi.
Allez, merci.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Sébastien Léas, est-ce que vous êtes aussi enthousiaste que le monsieur qu'on vient d'entendre? Arrivé d'une perturbation par l'ouest.
Oui, la matinée sera pluvieuse en Bretagne et Basse-Normandie, puis ces pluies vont se décaler vers les pays de la Loire, la Haute-Normandie et le Pas-de-Calais l'après-midi, laissant quelques éclaircies revenir par l'ouest. En fin de journée, cette perturbation s'étendra entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Entre le sud-ouest et les frontières du nord, les nuages seront nettement prédominants demain. Quelques averses seront possibles en matinée entre les Pyrénées et le Massif central. Et l'après-midi, le risque va également concerner les régions plus au nord avec même des développements d'orages. L'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Languedoc et la Corse seront encore épargnés et passeront la journée sous un soleil bien voilé, voire laiteux.
Et sinon, début de baisse des températures.
Oui, avant une baisse encore plus importante, mercredi, on va déjà perdre 3 à 6 degrés sur la moitié ouest, voire localement plus. On attend 15 degrés à Valenciennes, Chartres et Poitiers, 16 degrés pour Paris et pour Bayonne, 17 degrés à Albi et à Limoges, 18 degrés pour Aix-en-Provence, Besançon et Nancy. On ira jusqu'à 20 degrés à Solenzara et même 21 degrés à Grenoble, Mulhouse et Draguignan. Et puis sur le nord-ouest, il fera bien plus frais, avec seulement 11 degrés du côté de Caen et de Quimper.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.